Vous écoutez France Culture.
Aujourd'hui, c'est-à-dire à la veille du 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale qui a façonné le 20e siècle, nous rediffusons l'émission Les Français de 1914 avec Stéphane Audouin-Rouzeau et Michel Laval. La semaine prochaine, c'est-à-dire le 4 janvier 2014, l'émission aura pour titre « Peut-on encore aimer l'Europe ?» Mes invités seront Sylvie Goulard et Jean-Pierre Chevènement. Réplique « Les Français de 1914 » avec Stéphane Audouin-Rouzeau et Michel Laval. Citoyen, s'écrie Angèle Rasse, l'un des personnages des Misérables de Victor Hugo. Citoyen, le 19e siècle est grand, mais le 20e siècle sera heureux. Alors, plus rien de semblable à la vieille histoire. On n'aura plus à craindre, comme aujourd'hui, une conquête, une invasion, une rivalité de nations à main armée, une interruption de civilisation dépendant d'un mariage de rois et l'échafaud et le glaive, et tous les brigandages du hasard dans la forêt des événements. On pourrait presque dire, il n'y aura plus d'événements, on sera heureux. Comme ces mots si lyriques et si confiants font mal. Victor Hugo croyait pouvoir annoncer la fin des surprises, la fin des calamités, la fin des catastrophes, et qu'on aurait doublé le cap des tempêtes. Or, s'il y a eu un 20e siècle, c'est du fait d'une rivalité de nations à main armée qui a entraîné l'Europe dans une guerre apocalyptique à l'issue de laquelle rien n'a plus jamais été comme avant. 1914 est donc la grande coupure. Nous reviendrons aujourd'hui sur l'énigme dont cette date est porteuse, avec l'historien Stéphane Audouin-Rouzeau et avec Michel Laval, qui est avocat et aussi essayiste. Et si nous prenons un peu d'avance sur le centenaire qui se prépare, c'est parce que Michel Laval publie un livre inattendu. « Tuer à l'ennemi, la dernière guerre de Charles Péguy ». Le 1er août 1914, la France décrète la mobilisation générale. Le 25 septembre, Péguy meurt d'une balle dans la tête à Villeroy. C'est entre ces deux dates que se déroule votre récit militaire, Michel Laval. Pourquoi ce choix? Pourquoi Péguy?
Le choix de d'août 14 et de Péguy me semble aller de soi pour la raison que vous venez d'évoquer. Les 35 premiers jours de la guerre de 14-18, donc entre le 1er août et le 5 septembre, correspondent aux 35 derniers jours de la vie de Charles Péguy, qui est mobilisé comme officier de réserve, qui part avec son régiment et qui est tué à Villeroy, à 35 km de Paris, au point extrême de l'invasion allemande et la veille de la bataille de la Marne. Donc il y avait une corrélation entre la durée du début de la guerre et la durée de la fin de la vie de Charles Péguy. S'il fallait une première raison, ce serait d'abord celle-ci.
Mais il n'y a pas que cette raison, parce qu'on a le sentiment, à lire la prose et la poésie de Péguy, Michel Laval, que sa mort glorieuse y est presque annoncée, préparée. Ces vers très célèbres de Ève, « Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus le sol à la face de Dieu, Heureux ceux qui sont morts sur un dernier haut lieu, parmi tout l'appareil des grandes funérailles. Heureux ceux qui sont morts pour des cités charnelles, car elles sont le corps de la cité de Dieu. Heureux ceux qui sont morts pour leur âtre et leur feu, et les pauvres honneurs des maisons paternelles. Et justement, est-ce parce que, d'une certaine manière, vous partagez l'enthousiasme de Peggy que c'est lui que vous avez choisi pour raconter le premier mois de la guerre de 14-18?
Il y aurait beaucoup à dire sur l'enthousiasme de Charles Peggy. Ces vers que vous venez, qui sont très connus, évidemment, et que je cite d'ailleurs à la fin de l'ouvrage, pour scander en quelque sorte sa mort sur le champ de bataille, sont sans doute la préscience qu'il a eue de sa mort dans cet événement. Et d'ailleurs, il y a d'autres propos qu'il a pu tenir et qui laissaient penser qu'il savait qu'il ne reviendrait pas. Mais en fait, si mon choix s'est porté sur Peggy, c'est parce que Peggy incarne peut-être plus que tout autre la figure du Français de 1914. Il est en fait l'incarnation de cette France d'avant 1914, qu'il appelle l'ancienne France, qui est une France encore en grande partie rurale, qui va payer au premier chef le prix de la guerre. Et c'est cette ancienne France qui va se trouver littéralement engloutie dans la guerre de 14-18. Et Peggy est le représentant de cette ancienne France, en même temps qu'il est le représentant de la France tout entière. Il est, si vous voulez, il est la synthèse, en quelque sorte, de tout ce qui a pu constituer l'histoire antérieure. Il est à la fois le révolutionnaire de 1793, mais il est également le Français de l'Ancien Régime, de Saint-Louis qui s'agenouille sur les dalles de la cathédrale de Chartres. Il est tout cela à la fois. Et donc, il est en quelque sorte l'incarnation, encore une fois, d'une histoire qui va toucher à cet instant à son terme.
Eh bien, d'ailleurs, c'est aussi cette phrase célèbre, « La République une et indivisible, notre royaume de France ». Peggy, c'est une espèce de Français récapitulatif. Il assume à la fois l'héritage royal et l'héritage révolutionnaire, nos instituteurs et nos curés, dit-il par ailleurs. Stéphane Audouin-Rousseau, est-ce que vous reconnaissez dans la guerre de Peggy la guerre que vous avez choisie comme grand objet d'étude?
Oui, je crois que on pourrait dire que Peggy est effectivement à la fois, évidemment, c'est un écrivain et un homme exceptionnel, et en même temps, on utilise un petit peu les terminologies de la micro-histoire, c'est un exceptionnel normal. Peggy n'est pas le seul officier français tué debout. Ce mot « debout » est très important. Les officiers français en août et au début septembre 14 attendent le feu debout. Les troupes, on essaie de les faire se coucher, etc. Mais les officiers croient donc de leur devoir, c'est vraiment un ethos du combat en 14, de subir le feu debout. Et les pertes en officiers dans tous les régiments français engagés dans la bataille des frontières et ensuite dans la retraite jusqu'à la Marne, sont des pertes effroyables. Et on voit d'ailleurs très bien dans le livre de Michel Laval qu'autour de lui, tous les officiers sont tués ou blessés très grièvement, donc en même temps. Alors on pourrait dire aussi finalement que dans cette... Bon, il y a une forme de banalité sociologique aussi, finalement, de Peggy ici. Mourir au combat en 14, dans toute la société française, cela va de soi. C'est une chose extrêmement difficile à faire comprendre aujourd'hui. Il n'y a nul enthousiasme, bien entendu, ici. La peur est bien présente et l'angoisse dans les familles, etc. Mais mourir au combat va de soi. J'aime beaucoup les objets et je travaille en ce moment sur un objet qui se trouve à l'historial de la Grande Guerre de Péronne, qui est un bâton de soldat sculpté par un paysan de l'Ain en 1917. Il se trouve qu'il s'appelait Claude Burlou. Que sculpte-t-il? Il sculpte à un moment sur une partie de sa canne, il sculpte une Jeanne d'Arc qui est en même temps une Marianne qui est en même temps une République française, et il écrit « Pour toi m'a-t-on dit, je dois verser mon sang. Pour toi m'a-t-on dit ». Qui le lui a dit? C'est son instituteur qui lui a dit. Et Dieu sait si Peggy a célébré les instituteurs de la République. « Pour toi m'a-t-on dit, je dois verser mon sang ». On est en 17, on est beaucoup plus tard. Il a subi toute la guerre et il le dit encore. En 14, cette idée hein, de mourir au fond pour la de mourir pour la patrie, et eh bien est encore intacte et elle est performative, si je peux dire, tristement performative. Les plus grosses pertes de la Grande Guerre, c'est pas Verdun, c'est pas le Chemin des Dames, c'est 14.
Combien de morts?
Plus de 300 000 morts, 300 à 400 000 morts, hein, dès la fin de l'année 14.
Hein, c'est
340 000. C'est un chiffre incroyable. On est très au-delà de 1000 morts par jour. Hein, c'est un chiffre inouï, et notamment le 22 août 14, hein, dans les batailles des frontières, l'armée française perd 27 000 hommes, 27 000 tués, et puis évidemment tous les blessés qui sont autour. À peu près entre le 21 et le 24 août, 40 000 tués. Ce sont des chiffres qu'on a oubliés parce que...
On pense surtout à Verdun.
Voilà, parce que les tranchées, à partir de fin 14, début 15, les tranchées ont effacé finalement le premier mois de la guerre.
Oui, oui. Mais cette idée de mourir au combat comme étant quelque chose de pratiquement naturel se retrouve d'abord premièrement pendant toute la guerre et deuxièmement dans la formule même de tuer à l'ennemi. Parce que lorsqu'on consulte les fiches signalétiques des soldats, donc du 1 376 000 morts, la plupart d'entre eux, l'immense majorité d'entre eux, circonstance de la mort, tuée à l'ennemi. Alors si on réfléchit 30 secondes à l'expression « tuée à l'ennemi », elle a un sens. Ce n'est pas tué par l'ennemi, c'est tué à l'ennemi. Ça veut dire c'est tué en allant vers l'ennemi.
Oui.
N'est-ce pas ? Et si vous voulez, d'une certaine façon, l'expression même recouvre l'éthique profonde qui était celle... en fait, de toute l'armée française à ce moment-là.
L'éthique de l'offensive.
C'est à la fois l'éthique de l'offensive, mais c'est en même temps une concordance de valeurs qui sont communément partagées. Je parle sous le contrôle de Stéphane-Edouard Rousseau. Et quelles sont ces valeurs ? Il y a, d'une part, le sens du devoir, qu'on retrouve dans, notamment dans les correspondances de soldats, et cela pendant toute la guerre.
Oui.
C'est-à-dire
je ferai mon devoir. Tu peux être tranquille.
Et on l'annonce pour montrer qu'on sera digne de ce dont on a hérité en quelque sorte.
Les familles d'ailleurs le disent. Je suis sûr que tu feras ton devoir.
Donc par conséquent, il y a ça. Il y a le sens de l'honneur. Il y a l'esprit de sacrifice. Et il y a l'amour de la patrie. Les quatre se trouvent réunis et tissent en fait un comportement qui est un comportement commun. Certes, les officiers meurent debout, et d'ailleurs ça va provoquer dès le mois d'août 1914 une hémorragie très importante dans le commandement français. Ça va d'ailleurs amener à promouvoir des hommes sortis du rang, notamment les instituteurs, qui vont devenir officiers au fur et à mesure, ce qui d'ailleurs conduira au fait que les instituteurs ont été la catégorie professionnelle la plus touchée.
Totalement décimée. Ouais.
Absolument, totalement décimée, la plus touchée de toute la guerre. Il y a les officiers qui, ont une attitude qui incarne cet esprit de sacrifice, ce sens du devoir. Mais les soldats, bien qu'on les fasse coucher, n'est-ce pas, partagent exactement les mêmes valeurs que les officiers et déplorent la mort de leurs officiers.
Alors, les instituteurs, je ne peux pas résister à une citation de Peggy extrêmement connue, mais elle a quelque chose à voir avec notre sujet. Nos jeunes maîtres étaient beaux comme des hussards noirs, sveltes, sévères, sanglés, sérieux et un peu tremblants de leur précoce, de leur soudaine omnipotence, un long pantalon noir, mais je pense avec un liseré violet. Le violet n'est pas seulement la couleur des évêques, il est aussi la couleur de l'enseignement primaire. Donc les évêques, l'enseignement primaire, ils surmontent la grande querelle de la laïcité, et puis aussi les instituteurs en uniforme. Donc il y avait déjà quelque chose de militaire dans l'éthos des instituteurs. Mais là j'en viens peut-être au cœur du débat possible. François Furet, dans Le passé d'une illusion, dit très justement qu'un adolescent d'aujourd'hui en Occident ne peut même plus concevoir les passions nationales qui portèrent les peuples européens à s'entretuer pendant 4 ans. Il ne peut pas le concevoir. L'Europe, c'est l'Europe du bien-être pour lui et des droits de l'homme. Donc, cette difficulté, vous essayez d'y répondre, Michel Laval, en expliquant précisément ce qui motivait les Français de 14. Mais vous allez plus loin que l'explication. Vous allez, et je trouve que c'est la force de votre livre, mais peut-être aussi son caractère problématique, vous allez jusqu'à une certaine identification, la guerre qu'il faisait et, à vous lire, un peu la vôtre, la guerre qu'il fallait faire. Et vous citez d'ailleurs cette phrase de Peggy qui oppose quand même la France et l'Allemagne. Il y a une race de la guerre où tout tend à la beauté du combat, et il y a une race de la guerre où tout tend au prononcé de la victoire. Il y en a une où tout tend à l'énoncé et une où tout tend au prononcé. Il y en a une qui tend à la position et une autre qui tend à la décision. Il y en a une qui tend à la chevalerie et une qui tend à l'empire. Quelque chose de chevaleresque, c'est cet officier qui meurt debout du côté français, quelque chose d'impérieux et d'impérial du côté allemand. C'est ainsi que Peggy voyait les choses, mais c'est ainsi que vous nous amenez à voir nous-mêmes les choses dans le récit que vous faites, Michel Laval, du premier mois de la guerre. Donc vous assumez en quelque sorte, et c'est très rare aujourd'hui, où on prend cette guerre, si vous voulez, avec des pincettes, vous assumez la position française, Michel Laval.
Oui, j'assume la position française, je la revendique.
Voilà. Exactement.
Et je ne suis pas du tout gêné par cette situation, parce que je pense que Peggy, avant 1914, et notamment dans le texte que vous venez de citer,
c'est notre conjoint en fait, sur Monsieur Descartes.
Oui, c'est donc son dernier texte qui restera inachevé. Dans ce texte, Peggy, en fait, montre qu'il a parfaitement bien compris ce qu'était l'enjeu de la guerre de 1914. Quand on le lit, on s'aperçoit que cette guerre n'est pas seulement une guerre de nation à nation, qu'elle n'est pas seulement une guerre patriotique, mais qu'elle a des enjeux qui sont des enjeux plus profonds à travers la perception que Peggy peut avoir de ce que représente l'Allemagne et du danger qu'elle incarne. Peggy voit, dès avant 1914, que l'Allemagne, en fait, est la puissance dangereuse de l'Europe. Il la perçoit comme étant la puissance prédatrice de l'Europe. Donc, par conséquent, il y a dans la position de Peggy par rapport à la guerre, une position où apparaît un enjeu civilisationnel, qu'on a complètement occulté par la suite, pour des raisons d'ailleurs dont on pourrait discuter. Il y a des lectures de la guerre de 14-18 qui la cantonnent dans une guerre simplement entre des impérialismes antagonistes, ou bien alors qui n'en font qu'une guerre entre nations dans des enjeux patriotiques. Mais il y a dans cette guerre une dimension supplémentaire qui, en fait, va trouver sa raison, ne serait-ce que dans la manière dont les Allemands vont la mener, notamment en Belgique.
Notamment en Belgique, oui, ça vous en parle.
Avec les crimes commis contre les populations civiles.
Il y a une part de prophétie autoréalisatrice, en quelque sorte, oui. Effectivement, puisque les Allemands, par leur manière de conduire le combat et en Belgique et dans le nord de la France en août 14, au fond, confirment, en quelque sorte, et même très au-delà, confirment, font toutes les craintes que l'on pouvait nourrir à leur égard, une brutalité, effectivement, de l'entrée du corps de bataille allemand en Belgique et en France.
Il viole la neutralité de la Belgique, en plus.
Mais surtout, il viole aussi beaucoup les femmes.
Oui.
Tue en masse, les civils, à peu près 6 à 7 000 civils ont été tués, y compris des femmes et des enfants. Donc, il y a une violence extrême qui se déploie, qui est d'autant plus impressionnante qu'elle se déploie tout de suite. Ce n'est pas après les premiers combats, c'est dès que l'entrée des troupes allemandes entre en Belgique, les choses se produisent. Alors, ceci a beaucoup intéressé, évidemment, les historiens de manière récente, je n'y reviens pas. Je crois que vous avez raison, Michel Laval, de dire que au fond, il y a effectivement, du point de vue des acteurs sociaux de cette époque, il y a une véritable eschatologie. De la Grande Guerre, il y a une attente effectivement de lutte pour la civilisation qu'incarne donc la France à cette époque pour un homme comme Peggy, pour tous les républicains français, une attente de lutte pour les droits de l'homme, qu'on n'appelle pas exactement comme ça, mais au fond c'est ça dont il s'agit, et une attente surtout d'un monde débarrassé définitivement de la guerre. La guerre est faite pour un monde qui sera définitivement débarrassé de la guerre à partir du moment où l'Allemagne sera vaincue. Le léger problème tout de même, c'est que la victoire française sur l'Allemagne, méthode française et ses alliés sur l'Allemagne et ses alliés a rendu l'Allemagne infiniment plus dangereuse qu'elle ne l'était en 14. Et de ce point de vue, je crois qu'il faut quand même poser, en tant qu'historien, je crois qu'il faut poser la question des enjeux réels de la guerre. C'est une guerre d'un coût inouï pour l'Europe en général, pour des enjeux réels qui sont faibles. Je parle des enjeux réels tels qu'on peut les dessiner aujourd'hui, pas du point de vue des acteurs sociaux qui perçoivent effectivement la guerre comme chargée d'enjeux extrêmement intenses.
Oui, mais justement, mais c'est ça. La question, l'historien que vous êtes, disons, prend une sorte de recul vis-à-vis des acteurs sociaux. Voilà comment ils vivaient la guerre. Et vous, Michel Laval, ce recul, d'une certaine manière, vous le conjurez, vous le supprimez même. Il y a Peggy, il y a aussi Bergson, la lutte engagée contre l'Allemagne et la lutte même de la civilisation contre la barbarie. Tout le monde le sent, mais notre académie, dit-il, c'est l'Académie des sciences morales et politiques, a peut-être une autorité particulière pour le dire. Elle accomplit un simple devoir scientifique en signalant dans la brutalité et le cynisme de l'Allemagne, dans son mépris de toute justice et de toute vérité, une régression à l'état sauvage. Il y a aussi des propos de Romain Rolland que vous citez qui vont tout à fait dans ce sens. Et quand on lit, par exemple, à propos de la Belgique, que dans telle ville, les exécutions sommaires d'otages se comptent par dizaines et les destructions d'édifices par centaines, la Belgique est mise au supplice. À Liège, près de 400 étudiants russes, dont un grand nombre de juifs qui étudiaient dans la capitale, sont arrêtés puis déportés en Allemagne dans des wagons à bestiaux. Dans la petite cité médiévale d'Archott, sur la Jette, 156 civils sont assassinés et plus de 20 soldats belges prisonniers abattus et jetés dans la rivière. Évidemment, on frémit, évidemment, on pense à ce qui s'est passé ensuite et on se dit que la dénonciation en France du pan-germanisme, dans les années qui ont précédé la guerre, avait sans doute quelques fondements. Donc, ce que vous dites, vous, Michel Laval, c'est les acteurs sociaux n'avaient pas forcément tort. Ils ne se trompaient pas.
Si moi, je pense qu'ils se trompaient.
Mais oui, justement.
Moi, je pense qu'ils se trompaient. J'ai le plus grand respect pour les acteurs sociaux, mais je pense qu'ils se trompaient.
Voilà, je veux que...
Je pense aussi que le commandement se trompait. Je pense qu'il faut aussi...
Ah, mais ça, le commandement, c'est très clair.
Le commandement a été au-dessous de tout.
Je n'en ai pas fait l'économie.
Dieu sait que non. Mais alors, justement, les acteurs sociaux, puis le commandement.
Non, mais je pense que les acteurs sociaux ne se trompaient pas. Je pense que les acteurs sociaux... D'abord, il faut rappeler une chose qui est quand même relativement importante. Je ne crois pas que la France voulait cette guerre. Sans doute, il y avait fractions des acteurs sociaux ou de l'opinion qui étaient bellicistes. Il y avait la revendication qui revenait de manière récurrente autour de l'Alsace-Lorraine. Mais le gros de la population française ne voulait pas la guerre. D'ailleurs, le résultat des élections législatives d'avril-mai 1914 porte une majorité de gauche à l'Assemblée qui a combattu la loi de 3 ans. Et par conséquent, cela signifie qu'il y avait une sensibilité qui était une sensibilité plutôt pacifiste. Que d'ailleurs, au passage, Peggy combat avec force, non pas parce qu'il est belliciste, mais parce qu'il pense que ce pacifisme-là est un véritable danger pour la France.
Oui, des accusations terribles portées contre Jaurès.
D'où les accusations absolument terribles portées contre Jaurès, pour lequel il a eu une véritable vénération, notamment au moment de l'affaire Dreyfus, puisqu'il avait vraiment parti lié et dans un combat absolument commun. Il n'y avait pas non plus l'enthousiasme débordant qu'on a voulu décrire, notamment après la guerre. Les sentiments étaient très partagés et ils allaient de la plus profonde tristesse à, c'est vrai, l'euphorie. Mais il y a toute une palette de sentiments. Il y avait des sentiments de résignation, il y avait des sentiments, je viens de le dire, de tristesse, et tout ça se trouvait absolument mêlé. Mais en revanche, il y avait communément partagé, je pense, une détermination commune.
Oui, c'est ça.
Il y avait une détermination tantôt froide, tantôt échauffée, mais il y avait une détermination commune. Et quelle détermination ? C'est ce qu'a dit Stéphane Audouin-Rousseau à l'instant. l'idée que c'était la dernière des guerres.
Oui, alors justement, c'est cette phrase de Péguy à Geneviève Favre, que vous citez Michel Laval, « Grand ami, je pars soldat de la République pour le désarmement général, pour la dernière des guerres ». Est-ce qu'on trouvait un discours équivalent à Vienne ou à Berlin? Il y avait une détermination égale, mais est-ce qu'on disait la même chose?
C'est un texte, c'est à mon avis, une conception très française de la guerre, effectivement, qui débouchera sur cette terminologie de la « der des der », bien connue, avec les déceptions que ça va amener. Je suis d'accord sur certains points avec vous, Michel Laval, sur le fait qu'effectivement, les Français ne voulaient pas la guerre, mais à l'ivraie, personne ne la voulait. En Allemagne non plus, on ne voulait pas la guerre. Il y avait également des noyaux nationalistes extrêmement actifs, mais personne ne souhaitait une guerre offensive en particulier. Au Royaume-Uni, personne ne voulait la guerre. Et la guerre, en fait, effectivement, vous avez tout à fait raison, a été d'abord acceptée. L'enthousiasme a été très limité. C'est un phénomène de grandes villes, c'est un phénomène de gare, mais il a été dans l'ensemble très limité. Le gros des sociétés européennes acceptent la guerre et acceptent avec une résolution croissante, mais sans plus. Et deuxièmement, finalement, il y a une dimension d'accident dans la guerre. Il y a une dimension d'accident qui est extraordinairement importante, qui est liée à la mécanique des alliances d'une part et au plan d'état-major d'autre part. Joffre vraiment arrache au gouvernement vraiment l'ordre de mobilisation générale le 31 juillet. Le tsar de Russie se prend la tête dans les mains. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Souvenons-nous de... Et en Allemagne, il y a quelque chose qui se joue qui est du même ordre. Donc cette dimension... accidentelle liée à une mécanique plus forte au fond que les acteurs sociaux, je parle des dirigeants civils et militaires, est très important. Donc faisons attention de ne pas brosser le portrait d'une Allemagne pan-germaniste qui attaque tout le monde. En Allemagne, on a l'impression absolument sincère de se défendre. Tout le monde se défend en 14. Et on se défend y compris en attaquant. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas la légitimité profonde de la guerre dans toutes les sociétés européennes.
Oui, Michel Laval.
Je suis en très très grande partie... en accord avec ce que vous venez de dire. Mais je constate malgré tout, et vous avez raison, j'ajoute, de dire que le déclenchement de la guerre a un caractère accidentel dont on peut identifier les raisons, et notamment les alliances ont joué un rôle absolument désastreux dans l'enchaînement des événements. Tout cela est...
les alliances et les plans de guerre.
Et les plans de guerre. Mais,
pas juste sur la vitesse.
Mais justement, je vais parler des plans de guerre. Parce que s'il est tout à fait exact que la France et l'Allemagne ont chacune un plan de concentration, dont d'ailleurs, dans leur description, j'essaye de mettre en évidence qu'ils étaient calqués l'un sur l'autre, dans les moyens employés, dans le calendrier des opérations, il y avait quelque chose qui était profondément similaire. Mais il y a une grosse différence entre les deux. C'est qu'il n'y a pas de plan d'opération français, alors qu'il y a un plan d'opération allemand.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
C'est-à-dire que les Allemands ont un plan d'opération qui consiste à dire qu'ils vont envahir la France en passant par la Belgique, alors que les Français n'ont pas un plan d'opération qui consiste à envahir l'Allemagne. Les Français ont une stratégie. D'ailleurs, on va reprocher à Joffre le caractère vague, indécis de la stratégie sur le plan militaire, qui va le conduire d'ailleurs à ses premières offensives en Lorraine, totalement désastreuses, où il ne tient absolument pas compte de la concentration des forces allemandes.
Oui, c'est vrai.
Alors que
ça veut dire quoi? Alors que les Allemands ont un plan d'opération.
Alors que les Allemands ont un plan arrêté, n'est-ce pas?
D'invasion
de la France.
Et les Français, c'est un plan de défense?
Les Français,
excusez-moi, mais il me semble que les Allemands ont fait leur travail. L'état-major a fait son travail là où l'état-major français ne l'a pas fait.
Oui,
effectivement, il y a quelque chose de stupéfiant dans cette improvisation par Joffre, mais la mort de plus de 350 000 soldats français, sont imputables. Elle est imputable tout de même particulièrement à l'état-major, non seulement par cette absence de stratégie définie, mais aussi par une chaîne de commandement extrêmement rigide, qui ne fonctionne pas et qui expose les soldats au feu, les soldats français au feu, beaucoup plus qu'ils n'ont été exposés du côté allemand.
Mais Stéphane Audouin Rousseau
n'avait pas pour but d'exonérer le...
Vous le montrez très bien, et l'obstination de
s'accrocher
à son plan.
Est-ce que vous n'êtes pas au fond, et c'est intéressant comme problème, dans une nostalgie d'une France disparue?
Ah bah c'est clair, oui.
Et au fond, est-ce qu'il faut défendre cette France disparue. Est-ce qu'il ne faut pas en faire son deuil? C'est une question que
je vous pose. Oui, mais moi, Stéphane Audouin-Rousseau, j'ai aussi une question pour vous. C'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, nous ne comprenons pas aujourd'hui les raisons des acteurs, aux historiens de la faire apparaître, mais il n'y a pas seulement cela. Nous sommes dans une Europe réconciliée, et c'est aussi la raison pour laquelle on ne veut pas ranimer de vieilles animosités au risque aussi de prendre des libertés au nom de cette nouvelle bien-pensance avec la réalité historique. Quand je lis dans le livre de Michel Laval cette lettre de Guillaume II à l'empereur François-Joseph, mon âme se déchire, mais il faut tout mettre à feu et à sang, égorger hommes, femmes, enfants, vieillards, ne laisser debout ni un arbre ni une seule maison. Avec ces procédés de terreur, les seuls capables de frapper un peuple aussi dégénéré que le peuple français, la guerre finira avant 2 mois. Quand je lis cela, effectivement, je suis horrifié. Je me dis que le pan-germanisme n'a pas forcément attendu Hitler, même si, bien sûr, Hitler, c'est une toute autre dimension. Et là, je vous pose la question. Un discours équivalent aurait-il été tenu si les Français avaient envahi l'Allemagne? Imagine-t-on Raymond Poincaré écrire une telle lettre au tsar, puisque je pose la question.
On ne l'imagine pas.
Est-ce que c'est possible?
Alors, on ne l'imagine pas. Mais néanmoins, le contrôle postal, par exemple, français sur les soldats en 1918, quand les soldats français sentent que la victoire est là, à partir du basculement de l'été 18, hein, projetons-nous à 4 ans plus tard, eh bien, là, il est parfaitement... tout pacifisme disparaît à ce moment-là dans l'armée française, toute expression du pacifisme disparaît, alors qu'il était l'aspiration à la paix était devenue très forte depuis 1917. Et les soldats français, de manière tout à fait ouverte dans leurs lettres aux familles, eh bien, en appellent... espère une entrée en Allemagne, les armes à la main, avec des propos d'une extrême violence, donc à l'encontre évidemment des Allemands. Ils se promettent de violer les femmes, ils le disent.
Ça, c'est, donc, c'est, qui dit cela? Les soldats?
Les soldats français, bien sûr. Oui. Hein, ils le disent, le contrôle postal donc recopie, etc. Regarde les choses. Il y a la violence accumulée dans l'armée française contre les Allemands à la fin de la guerre est extrême. Cette violence ne s'est pas produite puisque l'Allemagne donc signe l'armistice et que les soldats français effectivement entrent en Allemagne, entrent en Rhénanie, mais sans combat. Donc il n'y a pas la
mais
même situation.
Mais c'est la violence née de 4 ans de guerre.
Eh bien, on peut en discuter. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Alors, il y a dans l'armée française en 14, et comme dans toutes les armées, et c'est une des choses les plus pénibles et les plus importantes, effectivement, si on ne veut pas faire d'anachronisme à noter, il y a une haine de l'adversaire qui est extrêmement, extrêmement forte. Il n'y a pas que les journaux, il n'y a pas que la propagande, etc., qui traîne les Allemands dans la boue, qui les animalise, hein, littéralement. On est là devant un corpus de représentation très largement partagé et qui s'exprime par un vocabulaire ordinaire qu'on trouve dans les lettres des plus simples paysans au détour d'un...
Dès le début de la guerre, vous diriez ?
Du début jusqu'à la fin. D'accord. Pourquoi ? Parce que la guerre est fondamentalement défensive. On se défend contre un adversaire, effectivement, qui est perçu comme un agresseur, qui, effectivement, on connaît, effectivement, les atrocités bien réelles commises par les troupes allemandes. On les exagère, d'ailleurs. Il y a une phare de rumeurs qui enfle encore un petit peu les choses. Mais maintenant, voyons voir. Sur cette lettre terrible de Guillaume II que vous citez, bien sûr, d'ailleurs, bon, il faut voir la part de rhétorique chez Guillaume II qui est extrêmement importante, mais passons. Cette idée, au fond, d'une guerre d'attrition la plus violente possible, elle n'est pas absolument nouvelle. Pendant la guerre de sécession, le Big Red des généraux du Nord pour briser la résistance du Sud ne dit pas autre chose. Il faut laisser à la population ses yeux pour pleurer, il faut briser par la terreur, par une extrême violence, la volonté de résistance du Sud. Quelle est derrière cette idée? Il faut, si on revient un petit peu en arrière, je crois que le grand traumatisme des états-majors avant 14, c'est la guerre russo-japonaise, en particulier la bataille de Mukden. Sur 150 kilomètres, 3 semaines de bataille, indécise, des tranchées partout, on ne peut plus faire la décision. Et cette idée qu'il faut absolument l'emporter très vite et de manière très brutale, parce que cette vitesse et cette brutalité économiseront finalement économiseront finalement les pertes. C'est une idée qui est atroce, qui est cynique, mais c'est l'idée des états-majors de cette époque, et c'est aussi l'idée de l'état-major français. Et à mon avis, je ne crois pas qu'il faille reprocher son plan de bataille, le plan Schlieffen, donc à l'état-major allemand. Il faudrait plutôt reprocher au plan français d'avoir eu un plan de bataille aussi informe et qui n'a laissé d'ailleurs à peu près aucune trace écrite.
Michel Laval.
Bon, je ne vais pas me lancer dans cette partie de la discussion de savoir si les Français auraient dû concevoir un plan d'invasion de l'Allemagne. Mais en revanche, je voudrais m'attarder sur ce que vous avez dit à propos du comportement des soldats français, notamment à la fin de la guerre, une fois que...
Pas le comportement, les attentes, plutôt que le comportement.
Oui, bien. Une fois que la certitude de la victoire était quasiment acquise. Bien. Et je pense d'ailleurs que dans les territoires qui ont été occupés par l'armée française en 1919, la Roure et ainsi de suite, je ne crois pas que les soldats français soient conduits forcément comme des enfants de cœur.
La Rédanie, oui.
Ce que je dis...
Enfin, les Allemands ont beaucoup exagéré sur leur comportement avec tout le racisme contre les troupes africaines.
Ce que je pense, c'est que, et c'est ça à mon avis aussi une partie intéressante de notre discussion, c'est qu'il y a dans le déroulement de la guerre l'apparition de comportements d'une... brutalité absolument inouïe et que, d'une certaine façon, les mentalités se transforment et qu'il y a une sorte de contamination spirituelle de la violence sur les hommes qui va les amener à, effectivement, laisser échapper des flots de haine. Mais je ne suis pas du tout convaincu comme vous qu'à l'origine,
ah oui, c'est ça,
il y ait un comportement de cette nature. Qu'il y ait eu des sentiments anti-allemands en 1914, chez les Français, ils auraient été naïfs pour ne pas le penser ou le croire, n'est-ce pas ? Ce qui avait d'ailleurs son équivalent chez les Allemands. Bon, ça c'est absolument incontestable. Bon, encore que d'ailleurs, il faudrait pouvoir mesurer, ce qui est extrêmement difficile pour l'historien que vous êtes, pouvoir mesurer exactement quel était le niveau, le degré de ce sentiment anti-allemand. Mais ce que je vois, moi, dans mon simple rôle d'essayiste, puisque je ne suis pas historien, n'est-ce pas ? C'est l'émergence progressive dans la dureté, dans la violence des combats. Vous avez travaillé là-dessus.
Bon, ah oui, d'ailleurs, vous parlez de cette brutalisation.
C'est la notion de brutalisation.
Brutalisation, bon.
Néanmoins, je crois que l'idée... je comprends votre argument je partage en partie. Mais je crois que l'idée qu'il y a, au fond, une brutalisation progressive des acteurs sociaux, au fur et à mesure que la guerre se prolonge, que les pertes s'accumulent, que les atrocités, évidemment, se multiplient. Cette idée est vraie, oui, mais le niveau de violence atteint par les premiers jours de guerre, je parle des pratiques de violence, d'une part, mais aussi des violences dans les représentations, ce niveau est très élevé. Le moment où le discours contre l'Allemagne en France est le plus radical, c'est 14-15. C'est pas 17 ou 18,
oui,
c'est 14-15.
Mais le discours...
Il s'est dit des choses dans la société française sur les Allemands, absolument étonnantes en termes d'infériorité biologique, d'animalisation de l'adversaire. S'il y a tout un débat en 15 en France sur le fait qu'il faut faire avorter les femmes françaises qui ont été violées, pour certains médecins même, pratiquer l'infanticide à la naissance sur les enfants nés de viols allemands, c'est parce que ces viols allemands vont infester donc la société française, puisque ces enfants seront biologiquement différents et ne pourront pas être éduqués. Il faut se rendre compte, je crois, de la radicalité, dès le début de la guerre, de la radicalité de l'hostilité.
Oui.
Ça n'est pas une accusation, je ne porte pas la moindre accusation, ce n'est pas du tout mon rôle comme historien des Français. Je crois qu'il faut, il faut comprendre, si vous voulez, de part et d'autre. Les soldats allemands sont souvent stupéfaits quand ils tombent sur les journaux de tranchées français de l'agressivité qui est exprimée à leur égard.
Stéphane Audouin-Rousseau, en même temps, il y avait une bataille idéologique où les Allemands répondaient aux idées de 89, liberté, égalité, fraternité, parce qu'ils appelaient eux-mêmes les idées de 14, devoir, ordre et justice. C'était le combat de la civilisation contre la culture,
oui,
menée notamment...
Mais à dire vrai, du côté allemand, c'est beaucoup plus contre les Russes qu'il y a une opposition civilisation barbare, beaucoup plus qu'avec les Français.
La différence entre esprit et politique, disait Thomas Mann dans les considérations d'un apolitique, implique la différence entre culture et civilisation, oui, entre âme et société, entre liberté et droit de vote, entre art et littérature. Là, il y a vraiment, c'est la France qui est la cible. Donc, j'entends ce que vous dites, mais d'un autre côté, on voit bien que c'est aussi... La France était fondée à dire qu'elle défendait les valeurs de sa propre révolution, puisque précisément, l'Allemagne se réclamait d'autres valeurs pour justifier cette guerre. Alors tout cela, bien entendu, a été, comment dire, périmé par la violence, par cette guerre où des hommes emmurés se sont fait face pendant 4 ans, par l'accumulation des morts. Mais tout cela a existé quand même.
Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire ?
Ah, je ne sais pas.
Est-ce que vous voulez dire que l'Allemagne avait la responsabilité primaire
non,
de la guerre ?
Non,
oui.
Pas du tout.
Eh bien oui,
ah bon,
elle l'a. Et les historiens, je crois, de relations internationales sont d'accord avec cela. L'Allemagne n'est pas la seule responsable de la guerre, comme on le lui a mis sur le dos, en particulier par l'article 231 du traité de Versailles, mais elle a la responsabilité primaire de la guerre. Sans être adossée à l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie n'aurait jamais envoyé l'ultimatum à la Serbie. La mécanique effroyable des alliances et des plans de guerre ne se seraient pas enclenchés comme elle s'est enclenchée. Très bien. Maintenant, je crois qu'il serait dangereux aujourd'hui, et je ne suis pas du tout dans le prêchi-prêcha contemporain, et je suis absolument, absolument désolé, en particulier des projets commémoratifs de 2014 qui disent, ben voilà, on va commémorer ensemble 2014 et 1944, et même 43-45, autour de l'idée qu'on va célébrer les Français qui se sont défendus. Mais on ne peut pas dire contre qui ils se sont défendus, parce que ça serait évidemment tout à fait...
Et pourquoi?
Et voilà, ce serait tout à fait fâcheux. Alors qu'il est, voilà. Donc, on est dans une situation absolument ridicule, et je comprends votre exaspération, mais je crois qu'il serait dangereux au fond de charger donc excessivement donc une Allemagne pan-germaniste qui pourrait tourner à la caricature. Le principal parti socialiste d'Europe, c'était le parti social-démocrate, et dans une certaine mesure le SPD allemand, et le Reichstag en Allemagne prend en 17 une position donc de recherche de paix qui n'a pas abouti, mais qui était sans doute la plus avancée de tous les parlements européens. Donc méfions-nous. Il y a une forme aussi d'agressivité républicaine française ancrée effectivement dans l'an 2, de sentiment de légitimité absolue qui animalise l'adversaire et qui aujourd'hui, quand on retrouve certains textes sur l'odeur de l'ennemi, par exemple, Genevoix, n'est-ce pas, normalien, extraordinairement cultivé, un des plus grands écrivains certainement.
De 14 est un grand livre.
Ceux de 14 est un très grand livre. Mais Genevoix, dans son premier livre, Souverdin, dit sur les Allemands, parle de l'odeur allemande dans des termes qui sont tout simplement un racisme anti-allemand. On ne peut même plus le lire quand on le dit aux amis de Genevoix, etc. Les gens ne peuvent même plus le reconnaître. On ne se rend pas compte à quel point la culture de guerre, les cultures de guerre de 14 ont été violentes dans les représentations et en même temps, bien sûr, dans les pratiques.
C'est Michel Laval.
Tout cela est évidemment parfaitement exact. Mais vous venez de dire qu'il fallait faire une distinction sur la position des Allemands vis-à-vis des Russes, des Slaves en réalité, avec un discours qui était un discours
de type raciste,
là aussi très prémonitoire sur ce qui allait se passer, et vis-à-vis des Français. Néanmoins, il est avéré, historiquement, je le cite d'ailleurs, que les Allemands disent bien mener contre la France, en 1914, une guerre d'anéantissement. Et contre une nation qu'il qualifie de nation dégénérée. Donc, le discours allemand, le discours officiel allemand, alors vous pourrez toujours me sortir comme pendant des propos tenus en France sur les Allemands que je n'ignore pas, mais le discours officiel allemand, ce sur quoi s'articule idéologiquement la position militaire allemande et la position même politique allemande, est un discours de guerre, comme le dit Peggy, une guerre de domination, une guerre de conquête, où, ajoute-t-il, à juste titre, finalement, la fin justifie les moyens. Puisque ce que dit Peggy, c'est qu'importe, dans cette logique, la manière dont on obtient la victoire, l'essentiel est d'avoir la victoire. Alors que Peggy, lui, appartient à une toute autre tradition, et c'est en cela où, à mon avis, il est quand même assez représentatif de l'esprit français, Peggy dit « l'essentiel n'est pas de vaincre, l'essentiel est de se bien battre ».
Oui, c'est magnifique.
Oui.
Il y a une race de la guerre qui est une lutte pour l'honneur, et il y a une toute autre race de la guerre qui est une lutte pour la domination.
Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est à la fois magnifique et absurde ?
Oui, c'est un peu absurde, c'est vrai.
Est-ce que le devoir d'un officier en 14, c'est pas de rester vivant pour continuer d'encadrer ces hommes et d'éviter qu'eux soient tués? Quand les jeunes Saint-Cyriens en 15 continuent d'affluer vers les tranchées et avec leurs casoards dans leur sacs et leurs gants blancs, exactement comme Peggy sur le plan de l'éthos du bataille, les capitaines qui ont déjà quelques mois de tranchées leur disent « Bon, écoutez, mon vieux, hein, ça suffit comme ça, vous allez nous ranger ça, hein, parce que ça, c'est terminé. » Ils ont raison. Ce qui est terrible au fond dans la mort de des officiers français en 14, hein, Titi Peggy, mais au fond c'est une forme d'inadaptation à la guerre moderne.
C'est aussi l'absurdité du pantalon Garance.
Bien sûr, mais absolument.
En quelle année d'ailleurs l'uniforme a-t-il changé de couleur?
1915.
Non mais je voudrais rebondir une minute sur cette question d'inadaptation, parce que je pense que c'est un point...
Vous la trouvez magnifique.
C'est un point central. Non, c'est un point central. Car en fait, ce mois d'août 1914 est un mois inaugural de ce que va être toute la guerre.
Oui.
On a tout à l'heure insisté sur... Les morts en masse d'août 14, qu'on a d'ailleurs, et je crois que nous partageons la même approche, qu'on a occulté en partie, parce que ensuite, en 15, en 16, en 17, la guerre va prendre une dimension d'une telle violence, d'une telle brutalité, qu'on oublie ce qui s'est passé juste avant la Marne.
Bien sûr.
Alors qu'en réalité, on parlait du 22 août, le 22 août, jour le plus sanglant de notre histoire, d'après l'historien Guillemin, 27 000 morts français dans la journée.
Alors, justement, d'ailleurs, vous citez en exergue à votre livre, Michel Laval, cette phrase de Peggy, « Ô soldats de l'an 2, ô guerre, épopée, c'est ça, mon ami, une épopée, c'est toujours une opération de joie, ça consiste à marcher sur une route, à se battre, et que le bruit des pas que l'on fait sur cette route ne puisse s'effacer de la mémoire des peuples.
Oui. »
Il est vrai qu'après 14, ce n'était plus une épopée, que même l'épopée de 14 s'est conclue par des dizaines de milliers de morts. Autre chose est née, une autre guerre, d'où d'ailleurs... C'est une des difficultés de la mémoire, et c'est là-dessus que je voudrais vous interroger dans les quelques minutes qui nous restent. Vous avez parlé, Stéphane Audouin-Rouzeau, de la commémoration qui s'approche. Comment commémorer, maintenant que l'Europe est fondée sur le couple franco-allemand, que commémorer? Alors je voudrais vous citer un extrait que l'ancien président de la République a prononcé le 11 novembre 2010 ou 2011. J'espère qu'une citation de ce président de la République ne me vaudra pas d'ennui. J'espère ne pas être inculpé pour association de malfaiteurs.
On n'exagérait pas.
Par Mediapart. Mais en l'occurrence, il s'agit d'un discours rédigé sans doute par Henri Guénaud. Voici ce qu'il dit. En septembre 1914, un jeune peintre de 24 ans qui allait mourir aux Éparges, le 5 avril 1915, écrit à sa mère « Auparavant, j'aimais la France d'un amour sincère, encore qu'un peu dilettante. Je l'aimais en artiste, fier de vivre sur la plus belle terre, mais en somme, je l'aimais un peu à la façon dont un tableau pourrait aimer son cadre. Il a fallu cette horreur pour sortir tout ce qu'il y a de filial et de profond dans les liens qui m'unissent à mon pays. » Fin de citation. Et voici le commentaire. « Le jour où plus une seule femme, plus un seul homme ne sera capable d'écrire cela, il n'y aura plus de France. »
Oui, je connais cette citation. Il faut bien reconnaître qu'elle est assez belle. Je crois que si on veut comprendre aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a mené une politique commémorative de la Grande Guerre qui était assez intéressante. Pierre Nora disait avant que Nicolas Sarkozy n'avait pas eu de chance avec l'histoire. C'est vrai, sauf avec la Grande Guerre. Il a mené une politique commémorative de la Grande Guerre assez intéressante, où dans un cadre très contraint, il a renouvelé énormément de choses et s'est beaucoup intéressé, visiblement, à cette commémoration-là. Et en 5 ans, la commémoration de la Grande Guerre a beaucoup changé. Et moi, je m'en réjouis. Hein, parce qu'au fond, et c'est très frappant pour la France, le 11 novembre a tendance à absorber, au fond, l'ensemble de la mémoire des conflits du passé. C'est vraiment, pour la France, la Grande Guerre, c'est la première catastrophe. C'est vraiment la catastrophe inaugurale. Et il n'y en a pas eu d'autre de cette dimension. Et ça pose le problème commémoratif. Aujourd'hui, pour 2014, pour l'année prochaine. Comment commémorer la première catastrophe? Et à la limite, si on veut bien la commémorer, il faudrait se poser la question, de manière quitte à répondre non, est-ce qu'il ne serait pas décent de ne pas la commémorer? Est-ce que l'on peut commémorer une catastrophe pareille? Parce qu'il y a la catastrophe démographique sur laquelle nous sommes revenus aujourd'hui, mais il y a une autre catastrophe qui est la catastrophe politique. Elle est essentielle. Les deux grands totalitarismes du XXe siècle, le communisme d'une part, et le fascisme et le nazisme d'autre part, sont nés de la Grande Guerre. Non seulement sont nés de la Grande Guerre et des désordres et de sociopolitiques qui sont nés de la Grande Guerre, mais surtout ils naissent de la brutalité de la Grande Guerre, ils l'absorbent et cette brutalité, ils la renvoient en quelque sorte dans les sociétés en question. Le bolchevisme vraiment remploie littéralement la violence de la Grande Guerre à l'encontre et ceci tout de suite, puisque le bolchevisme, comme vous le savez, a été tout de suite éliminationniste. Et le nazisme, qu'est-ce que c'est d'autre qu'une Grande Guerre recommencée, une recommencée en Allemagne même contre les communistes, les socialistes, les juifs, et recommencée contre les adverses et d'abord et contre les slaves, etc.
La date du 9 novembre n'a pas été choisie par hasard pour l'année cristale.
Comment commémorer cela, comment commémorer un événement aussi tragique, ce n'est pas la même chose que de commémorer le bicentenaire de la Révolution française.
Ah non, je sais, justement. Votre livre a quelque chose d'un peu commémoratif, il faut dire, Michel Laval, au bon sens du terme.
Peut-être que tous les livres d'histoire sur la Grande Guerre sont d'une manière ou d'une autre commémoratifs, d'ailleurs.
Oui, sans doute. Enfin, moi, ce que je redoute d'abord, c'est que surtout qu'on la commémore sous un angle caricatural qui consiste à nous expliquer que les Français et les Allemands jouaient au football ensemble sur le champ de bataille, s'échangeaient des cadeaux.
Ça, c'est inévitable, ça va arriver.
Il y a eu des fraternisations.
Si vous voulez, c'est résiduel.
Oui, c'est résiduel.
À l'échelle de ce qui s'est passé, c'est tout à fait résiduel. Et je ne crois pas que l'on puisse aborder l'événement sous cet angle, même si par ailleurs, on peut, s'agissant des mutins, dont on fait grand cas à chaque fois, on peut déplorer que des soldats aient été fusillés, pour certains d'entre eux d'ailleurs, qui étaient de glorieux combattants, décorés même pour certains. Bon, ça, c'est absolument contraire. Mais moi, je pense que s'il doit y avoir commémoration, encore qu'effectivement, on peut se poser la question.
Je pense qu'il faut se poser la question. Pour bien répondre, il faut se poser la question.
Mais la commémoration pourrait être la commémoration, finalement, du début de la guerre de 30 ans. C'est-à-dire cesser de penser cette guerre de manière séparée par rapport aux événements qui ont suivi. Je disais tout à l'heure que le mois d'août était inaugural. En réalité, c'est toute la guerre de 14-18 qui est inaugurale par rapport au siècle. C'est-à-dire qu'elle va marquer de son empreinte. Il y a quelque chose qui se passe du point de vue anthropologique, du point de vue culturel, du point de vue civilisationnel au moment de la guerre de 14-18 qui, à mon avis, va trouver son prolongement dans les événements qui vont suivre et son point culminant au point même qu'il est qualitativement différent avec l'avènement du nazisme. Et s'il devait y avoir, à un moment donné, une tentative d'association entre l'événement d'août 14, qui marque le début de cette guerre de 30 ans, et mai 45, qui va en apporter le terme, eh bien ce serait vraiment sous cet angle-là.
C'est une inauguration aussi, et c'est également une fin, et je voudrais dire simplement, pour terminer les dernières lignes de votre livre, Michel Laval, Peggy meurt au combat. Demain, dans l'aube livide qui se lèvera sur l'ancienne France engloutie, un autre temps va commencer, un autre âge, un autre monde, l'âge du mal universel humain, de la barbarie universelle dont Peggy avait prédit l'avènement. Quelque chose se termine en septembre 14 et quelque chose, en effet, commence. Merci beaucoup. Je renvoie au titre de votre ouvrage, Michel Laval, Tuer à l'ennemi, la dernière guerre de Charles Péguy. Ce récit est publié aux éditions Calman-Lévy. Et je citerai un de vos livres, Stéphane Audouin-Rouzeau, qui m'a beaucoup servi dans la préparation de cette émission. Un livre que vous avez écrit en collaboration avec Annette Becker, 14-18, Retrouver la guerre, dans la collection de la Bibliothèque des Histoires, aux éditions Gallimard. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et de Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Julien Douminc. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.